Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ces programmes. Le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Bonjour à tous et soyez les bienvenus à votre émission Bana Okapi sur Radio Okapi. Ce programme dédié aux plus jeunes est réalisé en partenariat avec l'UNICEF. Il est diffusé sur les antennes des Radio Okapi du lundi au vendredi de 15h30 à 17h. Nous parlons de la corruption qui touche tous les domaines de la planification et de la gestion de l'éducation, à savoir financement des écoles, le recrutement, promotion et nomination des enseignants, construction des bâtiments scolaires, achat et distribution des équipements et les manuels scolaires, accès à l'université, etc. La corruption restreint l'accès à l'éducation à tous les niveaux, du préscolaire à l'université. Elle entrave la qualité de l'apprentissage dont les enfants de pauvres sont les principales victimes et elle nuit à notre bien-être collectif. Ces fléaux sapent les fondements d'une éducation de qualité pour tous. La corruption dans les écoles met mal l'éducation des enfants. Nous en parlons dans cette émission. Elle est mise en onde par Mimi Kindou. Je suis Stanislas Diumi qui vous la présente. La corruption entraîne également des conséquences néfastes sur le système éducatif dans son ensemble, car cela compromet la qualité de l'enseignement et de l'évaluation des apprenants. Voyons tout cela avec vous, Greta Lulendo.
Dans un article publié il y a une année, le Centre de recherche sur l'anticorruption a indiqué que la corruption et la fraude scolaire est un phénomène malheureusement courant dans de nombreuses écoles en République démocratique du Congo où les parents ou les élèves versent des pots de vin aux enseignants pour obtenir des résultats académiques favorables même s'ils n'ont pas mérité ces notes. Cela entraîne des conséquences néfastes sur le système éducatif dans son ensemble car cela compromet la qualité de l'enseignement et de l'évaluation et prive les élèves méritants de la reconnaissance et de l'opportunité de poursuivre leur éducation de manière équitable. Les conséquences négatives de la corruption dans l'achat des notes à l'école sont notamment l'injustice pour les élèves méritants. Lorsque les notes sont achetées, les élèves les plus méritants ne sont pas récompensés pour leurs efforts et leurs réalisations, ce qui peut miner leur motivation et leur confiance en eux-mêmes. La baisse de la qualité de l'enseignement, lorsque les enseignants se sentent incités à vendre des notes, ils peuvent être tentés de ne pas enseigner correctement ou de ne pas évaluer correctement les élèves, ce qui peut entraîner une baisse de qualité de l'enseignement. La perte de confiance dans le système éducatif. Lorsque la corruption est répandue dans le système éducatif, les élèves, les parents et les enseignants peuvent perdre confiance dans l'intégrité et l'équité du système éducatif, ce qui peut miner l'ensemble du système éducatif. L'accentuation des inégalités sociales, la corruption dans l'achat des notes à l'école peut aggraver les inégalités sociales, car les élèves des familles les plus riches ont souvent plus de moyens pour acheter des notes que les élèves des familles les plus pauvres. Le risque de normalisation de la corruption, lorsque la corruption est courante dans un domaine, elle peut devenir normalisée et acceptée socialement, ce qui peut entraîner des conséquences négatives à long terme sur la société dans son ensemble. Pour lutter contre cette forme de corruption, il est important de sensibiliser les élèves, les parents et les enseignants au danger de la corruption et de mettre en place des mécanismes de surveillance et de responsabilisation pour dissuader les actes de corruption. Il est également important de promouvoir une culture de l'évaluation juste et équitable qui valorise les efforts et les réalisations des élèves plutôt que les paiements en espèces, conclut le Centre de recherche sur l'anticorruption.
À Arou, sur 88 FM.
Voilà, cette pratique ignoble a tellement pris de l'ampleur dans les écoles à la suite du comportement des élèves et des enseignants qui s'y adonnent. Écoutons les réactions de quelques élèves de Kinshasa. Grâce Mvuzolo a recueilli leur avis.
Bon, moi je pense que la corruption a plus pris de l'ampleur à cause des échecs qu'il y a dans le milieu scolaire. Les élèves ne sont plus basés aux études, ils aiment plus travailler, voilà pourquoi... Toutefois, ils pensent à corrompre pour passer des classes. Et c'est lui qui facilite, ceux qui facilitent cette corruption beaucoup plus, ce sont les professeurs, par leur état d'esprit, par leur mentalité. Ils sont pas vraiment trop fâchés, trop autoritaires envers nous, les élèves. Ils sont pas trop stricts. Voilà pourquoi souvent ils sont sollicités dans ces trucs de corruption.
Ouais, je suis du même avis que l'autre. C'est le problème de la dictature. Les professeurs ne sont pas trop stricts, vous voyez. L'élève, dès qu'il voit un professeur qui a un esprit faible, un professeur qui blague avec les élèves tout le temps, qui demande de l'argent aux élèves, pour l'élève, ça sera facile d'aller lui corrompre. Il s'est dit, même si je réussis pas à gérer chez ces professeurs-là, il est facile à corrompre, il aime l'argent et tout, je vais lui donner de l'argent et puis je vais passer des classes. Et du coup, l'élève passe des classes sans avoir la connaissance en tête.
En tout cas, pour moi, la corruption a eu l'ampleur à cause des professeurs. Parce qu'un professeur qui est dictateur ou dictatrice ou un professeur qui est fâcheux ne peut pas accepter la corruption. Au contraire, il y a des professeurs qui ne sont pas des dictateurs ou des dictatrices. Ils sont là à aimer l'argent. Au lieu quand les enfants viennent chez eux pour leur proposer la corruption, ils doivent refuser. Mais chez eux, c'est le contraire. Ils n'aiment pas et tout. Et il y a même d'autres professeurs qui demandent aux filles le corps pour justement passer des classes. Il y a aussi d'autres professeurs, quand une élève dérange en classe, et puis il va lui dire que je vais te faire échouer. Et puis par peur, l'élève là partira, et au contraire, le professeur va lui dire de donner son corps. En tout cas, pour moi, ce sont les professeurs qui ne sont pas dictateurs et qui ne sont pas fâchés, qui sont simples, qui sont faciles devant l'argent. Ce sont à cause de que la corruption a l'ampleur dans les écoles.
Qui sont à la base de cette corruption? Ce sont les élèves qui partent vers les professeurs ou ce sont les professeurs qui sollicitent les enfants?
Moi, je dirais que c'est les deux, parce que les élèves, ils sont paresseux. Avec l'apparition des réseaux sociaux et tout, ils aiment faire des sorties, faire le kilélo et tout. Ils négligent le cahier, ils négligent les études, ils se disent bon, je vais pas étudier, quand je vais pas réussir, j'irai chez ce professeur-là, il va me faire passer des classes. Et les professeurs aussi, comme j'avais dit au début, qui ne sont pas dictateurs, qui sont faibles devant l'argent, qui sont faibles devant les élèves, devant les corps des filles et tout. Et c'est un peu ça.
Oui, c'est le deux. Je pense que le professeur et l'élève qui sont à la base de ça, parce que les élèves sont distraits. Ils passent leur temps à la distraction, ni t'étais seulement les réseaux sociaux, mais la télé et tout. Ils passent leur temps à se distraire au lieu de voir le note. Et puis, celui qui facilite plus, c'est les professeurs. Parce qu'il doit être strict devant un élève qui lui propose la corruption. Donc, il y a deux cas. Dans l'un des cas, le professeur qui propose, mais dans l'autre cas, c'est l'élève qui propose. Donc, c'est comme ça. Les deux sont à la base de la corruption.
Y a-t-il des conséquences? Certainement.
Oui, bien sûr, il y a des conséquences telles que tu vas sortir de l'école diplômé, mais à la tête, il n'y aura rien. Et tu ne seras pas en mesure de défendre ton diplôme. Tu ne seras pas en mesure d'être présent pour ton diplôme. Donc, quand il y aura des difficultés où tu devras faire face d'intelligence, tu ne sauras rien faire. Tu ne sauras pas dire non, j'ai étudié. Tu as étudié, il y a des documents, bien sûr, mais il n'y a pas de défense. Tu ne peux pas défendre ton diplôme, défendre tout ce que tu as fait à l'école. Donc, tout ça sera parti en perte. Même l'argent que les parents vont dépenser pour le frais scolaire, tout sera parti en perte. Et la perte, c'est déjà une conséquence.
Moi, personnellement, je suis du même avis avec eux. Les conséquences sont celles. Peut-être si un professeur te propose de coucher avec lui, tu peux aussi, si le professeur avait une autre maladie, toi aussi tu peux être atteint ou atteinte de cette maladie. C'est un peu ça les conséquences.
Il y a beaucoup de pistes et des solutions, notamment il faut que les élèves reprennent le pied sur terre. Donc, ils doivent se concentrer aux études, passer plus de temps devant leur cahier, se concentrer, donc se donner à l'étude. Et comme ça, il y aura des réussites et ils vont constater que la corruption sera plus nécessaire.
Moi, je dirais la confiance en soi et la considération des études aussi. Dès que quand tu étudies, tu revois tes notes, tu te dis que moi, je vais réussir, je suis intelligent, je vais réussir. À quoi bon aller corrompre? Donc, ça n'a pas d'importance.
Moi, personnellement, je dirais qu'il doit avoir la structure dans les écoles parce que pour que la corruption puissent avoir l'ampleur dans les écoles, c'est parce qu'il n'y a pas la structure. Il y a d'autres personnes, même quand ils attrapent les élèves, ils ne disent rien. Si vraiment il y a de la structure dans des écoles, et la corruption n'aura plus d'ampleur.
Et les professeurs aussi doivent apprendre à être durs devant l'argent, devant les élèves, mais pas faciliter ça. Dès qu'un élève vient et te propose la corruption, il doit être strict et lui dire en face que ce que tu as fait ne sera pas impuni. Tu seras puni à cause de ça. Plus les gens seront punis à cause de la corruption dans un milieu scolaire, plus aussi ça diminuera et finira par finir.
L'information se retrouve aussi tout le jour sur radiookapi.net. Actualité, sport, environnement, économie, culture. Réécoutez les journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Chaque matin, lisez aussi la revue de la presse congolaise. Radiookapi.net, votre site d'info sur le Congo. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'utiliser.
Pour mettre fin à la corruption en milieu scolaire, il faut améliorer la qualité de la rémunération des enseignants. D'autres, en revanche, pensent que la responsabilité est partagée. Écoutons les avis des uns et des autres, toujours au micro de Grâce Mvouezolo.
Moi, je pense que pour des écoles où la corruption existe, pour y mettre fin, il y a une seule réponse. La seule réponse est la bien rémunération de l'enseignant qui travaille. Si aujourd'hui on paye à un enseignant 600, 700 dollars, 800 dollars, pensez-vous que cet enfant sera tenté, disons, d'avoir une corruption? Non, mais quand vous payez à un enseignant, par exemple, vous lui accordez 100 dollars, 200 dollars, il est incapable de couvrir ses besoins. D'abord, il quitte chez lui, soit il fait les pieds, ou il attrape un transport difficilement. Il arrive à l'école, il doit commencer à travailler. Il n'a pas pris son café le matin. Et quand l'enfant arrive, lui, mon professeur, j'ai pas réussi, par exemple, en géographie, j'ai 9 sur 10. Est-ce que vous pouvez m'ajouter un point pour avoir 10 sur 20? Je vous donne 1000 francs. Et le professeur qui n'a pas encore mangé, pensez-vous qu'il va pas accepter? C'est là le problème. Le problème, d'abord, c'est pas la mentalité. Le problème, c'est les salaires. Dans toutes les entreprises, dans toutes les sociétés du monde, ce qui a amené la corruption, c'est les mauvais salaires des gens. Voilà ce que je peux vous dire.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. À ce niveau aussi, les responsabilités sont partagées. Il y a la part de l'État, premièrement. Et là, j'insiste, l'État. Il y a l'enfant lui-même, il y a aussi l'enseignant. L'État, comme je l'ai dit tantôt, est le gestionnaire de tout le monde. De l'enseignant, de l'élève, et c'est lui qui nous gère. Mais qu'est-ce qui se passe? Un enseignant qui est mal payé. Parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs moi je voudrais bien, avant de répondre à cette question, vous poser aussi une question. Vous êtes parent. Un matin, votre fille vous amène un fiancé et dit, voilà, mon fiancé est là, et vous posez la question, qu'est-ce qu'il fait? C'est un enseignant. Bon, je ne vous demande pas de répondre ici, mais vous avez votre réponse. Je crois que peu de parents accepteront, surtout les parents qui sont dans de bonnes conditions, accepteront de donner leur fille à un enseignant. Alors, même quand nous enseignons, nous sommes dans des salles de classe. D'ailleurs, aujourd'hui, vous avez dit que vous êtes à l'UPEN. Allez faire cette investigation. Passez dans de filières ou de facultés directement liées à l'enseignement. Vous verrez qu'il y a peu d'étudiants. Et moi, j'ai peur que dans les années à venir, aujourd'hui, nous enseignons les enfants de nos compatriotes congolais. Mais mes enfants demain, j'ai souci de mes enfants. Je pense que demain, il n'y aura pas d'enseignants pour mes enfants. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes en train d'encadrer le futur cadre de ce pays. Mais est-ce que demain, il y aura des enseignants pour mes enfants, à l'UPEN, aller en géographie, aller en histoire, français et tout ça? Combien d'étudiants sont là? et vous pouvez déjà vous répondre. Quand nous sommes dans des salles de classe, vous essayez de poser la question. Vous étudiez aujourd'hui, demain après votre diplôme d'État, qu'est-ce que vous allez faire? Enseigner à tout ça. Peu d'enfants disent que je deviendrai enseignant après mes études. Non. Ils sont vraiment moins nombreux. C'est-à-dire que les conditions ne sont pas bonnes. Et celui qui a fait que l'enseignant perde sa valeur, c'est notre État. Mais le même enseignant hier qui était un homme de valeur, aujourd'hui a totalement perdu cette valeur. Il est sans valeur à telle enseigne que même le parent, pour qui l'enseignant transmet des connaissances à l'enfant, a perdu le sens de respect à cet enseignant. Les parents ne respectent pas les enseignants. Pourquoi? Parce que ce sont des misérables. Mais quel péché l'enseignant a commis de pouvoir transmettre de connaissances aux gens qui gèrent le pays, aux gens qui deviennent tout ce qu'ils veulent dans le monde? Cet enseignant est négligé. Les conditions de l'enseignant ne sont pas bonnes. L'enseignant est très mal payé. Si nous pouvons lutter contre la corruption dans les écoles, il y a une seule chose. Mettez l'enseignant dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, l'enseignant ne fait plus de recherche. Et surtout, les enseignants des écoles publiques, je dis bien, les enseignants des écoles publiques, ils ne font plus de recherche. Ils n'ont plus le temps de se concentrer. Aujourd'hui, l'enseignant est devenu cumulard. C'est ce qui ne s'est passé pas hier. Un enseignant qui enseigne dans 3 écoles, 4 même. Qu'est-ce que vous voulez que cet enseignant produise devant vos enfants? Et dans la lieu où vont les choses, si la situation continue ainsi, les étrangers vont gérer ce pays. Ils viendront nous maltraiter. Ils viendront prendre le dessus sur nous. Pourquoi? Parce que l'éducation, qui est la base de tout, est négligée. Alors, simplement, si on veut lutter contre la corruption, c'est de mettre l'enseignant dans de bonnes conditions, c'est-à-dire bien le payer. Parce que c'est l'enseignant qui a formé tout le monde. Tous ceux qui deviennent juristes, qui deviennent parlementaires, qui deviennent ministres, qui deviennent ceci, cela, c'est l'enseignant qui l'a formé. Mais c'est cet enseignant qui a formé tous ces gens-là est négligé. On peut parler de tel ministère, ça a l'air autant. Tel ministère, ça a l'air autant. Mais lorsqu'on parle de l'enseignant, on dit « Ah là, ils sont nombreux ». Mais que voulez-vous? Il y a combien d'habitants dans ce pays? Et vous voulez qu'il y ait combien d'enseignants? Alors quand on parle de leur salaire, on dit « Ah non, 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 là ils sont nombreux. » Mais papa, un enseignant qui est mal payé, quel travail voulez-vous qu'il vous rende?
Merci monsieur le journaliste. Moi, je vais parler seulement dans quelques mots. Mon ami a tout dit, mais moi je vais dire ceci. Lorsque vous parlez de la corruption, qui doit arrêter la corruption? Et quelqu'un qui gagne 20 000 $, mais il est corrompu. Et qu'est-ce que vous allez dire à un enseignant qu'on donne 400 000 francs congolais? Il a des enfants à l'université, il a une femme, c'est un locataire. Et moi, je condamne l'État. L'État condamne l'enseignant à mourir pauvre. L'homme qui a étudié, plus que les gens qui gagnent de 20 000 $, au-delà même de 20 000 $, ils n'ont pas étudié comme des enseignants. L'enseignant a étudié, il a formé, mais lui, c'est l'homme à battre. Il est condamné à souffrir, à être misérable jusqu'à sa mort. Il n'a même pas cette capacité d'acheter une maison pour les enfants. Et vous allez parler de la corruption devant un enseignant? Non, l'enseignant n'a pas cette vocabulaire de corruption dans sa tête. Mais c'est l'État qui lui rend corruptible. Que l'État paye les enseignants bien? Vous pensez qu'un enseignant qui gagne 1 000 $ à Kinshasa, un enfant peut lui corrompre? Non, par contre, il va acheter des beignets à ses enfants-là comme c'était à l'époque. C'est l'État qui est à la base de ça. Que l'État paye les enseignants bien, qu'il prépare le relève. Parce que demain, nous allons parler du chaos. Parce que l'enseignement est au rabais, c'est-à-dire l'éducation est détruite, alors demain, ça sera encore pire. Si les temps ne reviennent pas pour penser aux enseignants, que c'est lui qui est à la base de la formation de la société, alors demain, nous allons regretter.
Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ces programmes. Le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Bana Okapi se poursuit sur nos antennes. La corruption restreint l'accès à l'éducation à tous les niveaux, du préscolaire à l'université. Elle entrave la qualité d'apprentissage et nuit à notre bien-être collectif. Elle sape les fondements d'une éducation de qualité pour tous. La corruption dans les écoles met à mal l'éducation des enfants. Nous en parlons encore dans cette deuxième partie de votre émission. Bienvenue à toutes et à tous.
Bana Okapi avec Stanislas Diumi.
Rendons-nous à Beni au Nord Kivu. Il s'appelle Pascal Tembo Muliwanvio. Il est enseignant de français, latin et philosophie dans deux lycées, à savoir lycée Mwandu et Mwani de Beni. Dans cet entretien avec notre collègue André Kitenge, il parle de la pratique de la corruption dans les écoles avec ses acteurs, ses conséquences négatives, le lien avec le système de gouvernance et donne les conseils aux enseignants, élèves et parents. Suivez.
Pascal Tembo Muliwavio, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Enseignant, pendant au moins 18 ans, vous avez enseigné. Alors, parlez-nous un peu du phénomène corruption et fraude scolaire dans certaines écoles. Pensez-vous que ce phénomène de corruption et la fraude scolaire a bel et bien existé dans nos écoles?
Monsieur le journaliste, les écoles, comme la majorité de sociétés congolaises, je dirais la majorité de couches sociales de la communauté congolaise, l'école, en fait, à Beni comme à travers le pays, n'échappe pas à cette gangrène de corruption qui a lieu. Eh bien, ce phénomène, c'est un phénomène qui existe dans, je dirais, toutes les écoles. C'est quelque chose qui existe de façon officieuse, c'est-à-dire il n'y a pas, en fait, de manière officielle, de stratégie pour stopper cette hémorragie qui ronge des écoles. Ça peut être des écoles primaires, des écoles secondaires, tout comme des universités. Cette situation existe vraiment et elle demande que nous puissions encore une fois, nous tous dans la communauté, nous y pencher pour essayer de redresser la situation.
C'est sous quelle forme ce phénomène de corruption existe dans ces écoles? Parents et élèves, tous sont-ils impliqués?
Je crois que presque tous les acteurs sont impliqués. Il est de fois que ce sont des parents qui sollicitent des réussites pour les enfants, mais aussi les enfants eux-mêmes peuvent solliciter une réussite pour eux-mêmes, moyennant de pots de vin à verser auprès d'un acteur de l'éducation. Ça peut être un enseignant debout, tout comme un enseignant assis. Et parfois, ce sont des enseignants qui partent vers les élèves pour leur proposer de verser quelque chose afin qu'ils puissent augmenter leur cotation. Donc, vous constatez que c'est un circuit qui touche tout le monde, et les parents, et les élèves, et aussi les éducateurs. Voilà au moins les formes que nous avons eu à constater dans les milieux scolaires et qui, je présume, qui continue encore à s'installer dans des écoles.
Et ces pots de vin prennent quelle forme? C'est-à-dire en nature, en cash, comment?
Ça dépend, c'est soit en nature, soit en cash, et même, je sais pas, parfois c'est moral aussi, parce qu'il y a des connaissances qui peuvent influer. Quelqu'un qui sollicite un enseignant à pouvoir aider, par exemple, son fils ou sa fille, parce qu'ils sont amis. Ils sont amis, il n'y a même pas un bien ou un sou à verser auprès de lui, mais une redevabilité sociale pour dire « c'est mon frère, c'est mon cousin », alors il pourrait éventuellement aider mon fils à gagner 2 points avec moins d'efforts. Voilà les genres de pots de vin qu'on verse, et aussi en cash, comme je le disais, tout comme en nature.
On sait que la fraude scolaire ou la corruption entraîne des conséquences néfaste sur le système éducatif dans son ensemble et prive les élèves méritants de la reconnaissance et de l'opportunité de poursuivre leur éducation de manière équitable. Mais vous, en tant qu'enseignant, c'est quel conseil allez-vous donner aux acteurs? Ça peut être les parents, les élèves, ça peut être les enseignants eux-mêmes. C'est quel conseil donnez-vous à tous ces acteurs pour mettre fin ou essayer de mettre fin à ce phénomène?
Bien, le conseil que l'on ait cesse d'écouter dans la communauté, c'est que chacun des acteurs ou de partenaires puisse revenir à la conscience. Je vais commencer chez les enseignants parce que ce sont d'abord les miens. Eh bien, nous enseignants, nous devons revenir à la conscience, du moins pour ceux qui ont trempé dans cette pratique, nous devons revenir à la conscience, surtout que lorsque nous sommes enseignants, nous ne devons pas seulement nous limiter sur le fait scientifique que nous communiquons aux enfants, que nous transmettons aux enfants, mais ce qui doit aussi attirer notre attention, ce sont des attitudes que nous communiquons, que nous essayons de transférer chez les enfants. L'enfant imite mieux ce que nous faisons que ce que nous lui disons. Si nous lui disons quelque chose que nous ne sommes pas capables de réaliser, eh bien, l'enfant est loin de nous imiter dans nos paroles, plutôt il nous imite dans les actes. Et que donc le modèle que nous aurons donné à nos enfants, c'est celui que nous allons récolter demain. La société attend de ce que nous avons donné aux enfants une bonne gestion, pas seulement des écoles, mais des entreprises en général, du pays. Aujourd'hui, le pays est en pente, tout le monde le sait, on ne peut pas se voiler la face, c'est aussi lorsque de mauvaises pratiques ont existé et que elles n'ont pas été, en fait, stoppées. Chacun qui s'y sera versé peut oublier qu'il a été un artisan de cette mauvaise gouvernance qu'il y a aujourd'hui parce que il a simplement minimisé, l'acte qu'il a posé à travers, par exemple, une corruption à l'école. Parce que l'enfant qui a gagné des cotes sur base de la corruption, eh bien, il garde à l'esprit que on peut obtenir une quelconque faveur grâce à l'argent. On ne sera pas étonné demain s'il a une grande responsabilité qu'il fasse de même pour la communauté. Voilà donc un mauvais exemple que nous aurons transmis à un apprenant. Pour ce qui concerne les élèves, eh bien, la société, je leur dis, la société est pleine de tout sauf de rien. Et quand nous apprenons, nous devons, en fait, imiter les bons exemples et nous désintéresser de ceux qui ne sont pas bons. C'est-à-dire, nous prenons contact avec toutes les réalités, mais à chacun de savoir quel est le modèle à imiter pour que l'on ait une réputation irréprochable. Mais si jamais ce sont les points négatifs qu'un apprenant va devoir imiter, eh bien, c'est continuer à ruiner la société davantage. Je dirais donc aux parents, les parents, chaque parent voudrait voir ses enfants pour un meilleur lendemain. Et je ne vois pas un seul parent qui attende un meilleur lendemain de son enfant à travers des antivaleurs. Lorsque c'est vous, les parents, qui commencez à mener votre enfant à plonger ou à tremper dans les antivaleurs, je crois que la chance n'est plus estimable ou on ne peut plus espérer à la chance que l'enfant demain ait un lendemain meilleur parce que si ces antivaleurs l'accompagnent, eh bien, dans la communauté, il sera toujours un peu bousculé pour avoir pris l'habitude de verser dans des antivaleurs. Et que donc, l'enfant imite et les parents à la maison et l'enseignant à l'école, l'enseignant et les parents doivent constituer un modèle, un bel exemple pour les enfants afin que nous puissions espérer à un futur bien battu par les enfants que nous sommes en train d'encadrer, les enfants que nous sommes en train de mettre au monde.
Pensez-vous qu'il y a un lien entre la corruption et le système de gouvernance au pays?
Le lien entre la corruption et le système de gouvernance, oui, il y en a, parce que, vous savez, monsieur le journaliste, la gouvernance au Congo a déjà mis l'enseignant dans une condition telle qu'il ne peut pas. Alors, le fait que l'enseignant dans la société congolaise n'a pas sa valeur, cela favorise que les parents ou l'élève l'abordent facilement parce qu'il n'est pas respecté du fait qu'il n'a pas de salaire ou s'il en a, c'est un salaire minable qui ne permet pas à la société de respecter l'enseignant. Et lorsque les apprenants trouvent que les enseignants n'ont pas de moyens suffisants, ils sont tentés d'aller vers eux et leur proposer quelque chose. Malheureusement, pour certains, ils fléchissent et c'est là où ça va mal. Sinon, je pense que l'État congolais devrait relever le niveau de considération de l'enseignant en lui payant un salaire décent qui permette à ce que l'enseignant ait de la valeur dans la communauté, et cela donnerait aux enfants, même aux parents, de respecter l'enseignant et d'être moins tentés d'aller vers lui, lui proposer quelque chose.
Pascal Tembo Muliwavyo, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Les questions sur votre santé et celles de vos proches vous concernent. Retrouvez tous les jours les conseils de Radio Okapi à 8h56 et à 14h40, heure de Kinshasa, pour comprendre ce qui va ou ce qui ne va pas. La chronique santé, c'est sur Radio Okapi avec UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la Population.
La corruption et la fraude scolaire sont des phénomènes courants dans plusieurs établissements scolaires du pays. Et de nombreux acteurs sont à la base de ces fléaux favorisés, notamment par la mauvaise rémunération des enseignants en milieu scolaire. Grâce au Vozolo s'entretient avec M. Jean-Claude Dissachi, conseiller d'orientation scolaire. Écoutons leur entretien.
Bonjour M. Jean-Claude Dissachi.
Bonjour monsieur le journaliste et bonjour à tous les auditeurs de la radio de la paix, la radio Okapi.
Vous êtes conseiller d'orientation scolaire et assistant à l'université de Kinshasa. Dans un article publié il y a une année, les centres de recherche sur l'anticorruption a indiqué que la corruption et la fraude scolaire est un phénomène malheureusement courant dans de nombreuses écoles en République démocratique du Congo où les parents et les élèves versent de pots de vin aux enseignants pour obtenir des résultats favorables, même s'ils n'ont pas mérité ces notes. Qu'est-ce que vous en pensez?
J'en dis que c'est effectivement un fléau que nous vivons dans notre pays, pas seulement dans les secteurs de l'éducation, mais c'est quand même un fléau qui touche tous les secteurs de la vie nationale et l'éducation ou l'enseignement n'en est pas du tout épargné. Donc ce rapport dit vrai, la corruption est une gangrène qui hante les écoles ou le système éducatif en République démocratique.
Messieurs les conseillers d'orientation scolaire, qu'est-ce qu'on entend par corruption?
Je crois que s'il faut définir la corruption, il faut y aller de manière juridique, parce que la corruption est un délit. C'est un délit qui est commis par un particulier qui propose directement ou indirectement des offres, des dons ou des présents ou encore des avantages pour obtenir d'une autorité publique, d'une personne investie d'une mission de service, un accomplissement ou non d'un acte relevant de ses fonctions ou de facilités, disons, facilitées par les fonctions de ces messieurs-là. En d'autres termes, la corruption, c'est une action de soudoyer quelqu'un. Donc, c'est une perversion. C'est un moyen qui est employé pour gagner quelqu'un et le déterminer à agir contre son devoir et dans un sens contraire à ce qui est licite.
Quelles sont les formes de corruption que nous pouvons constater en milieu scolaire?
En milieu scolaire, la corruption peut prendre plusieurs formes. La forme la plus simple, c'est la corruption financière avec l'argent. La forme qui c'est la forme ce qu'on appelle la corruption morale. Vous pouvez voir par exemple certains parents sont bien placés ou placés qui invitent l'enseignant chez eux à la maison, qui lui présente, qui lui donne un certain avantage, qui lui présente certains biens, qui lui donne parfois quelque chose à manger et tout ça. Donc il reste avec une dette morale, ce qu'on appelle la corruption morale. Mais il n'y a pas que ça, il y a encore quelque chose qui fait mal malheureusement, c'est aussi cette forme de corruption qui prend la forme physique ou sexuelle. Donc ça existe dans les écoles, ça se remarque.
Et quels sont les facteurs qui favorisent cette corruption?
Il y a plusieurs facteurs qui contribuent à l'éclosion ou à l'explosion de la corruption dans nos écoles. D'abord, c'est le manque de moralité, et les corrupteurs qui fait ce qu'on appelle en droit la corruption active et les corrompus qui fait ce qu'on appelle la corruption passive, le deux souffrent d'un mal criant de moralité et d'éthique. Mais il y a également l'impunité qui est aussi favorise justement la corruption en milieu scolaire. Vous savez que quand les enfants constatent que à chaque fois qu'il y a corruption au niveau de l'école, il n'y a aucune sanction vis-à-vis du corrupteur et du corrompu. Cette impunité-là fait que ça puisse favoriser la corruption dans les écoles. Il y a aussi la recherche des gains faciles. C'est un facteur très important. Beaucoup d'enseignants, vous savez, aujourd'hui, les enseignants sont parmi les personnes qui sont le moins payés ou bien le mal payés dans ce pays. Ils reçoivent un salaire qui n'est pas à la hauteur des efforts qu'ils font. Alors, il y en a qui font ce qu'on appelle la recherche des gains faciles. Ils estiment qu'en monnayant, par exemple, le point, ils peuvent gagner facilement, c'est que les salaires n'ont pas de valeur. Donc, il y a aussi la lenteur administrative qui peut être à la base un des facteurs de la corruption. Je vous donne un exemple. Si, par exemple, un élève vient retirer un document à l'école et que ce document-là doit lui être remis comme un bulletin, par exemple, doit lui être remis le plus tôt possible, et vous allez constater que ces bulletins-là traînent, ça prend du temps et l'enfant va user d'autres moyens pour essayer d'avoir ces documents-là de toute urgence. Et ces moyens-là, c'est justement ce que nous appelons des moyens courts.
Et cela entraîne certainement des conséquences néfastes sur les systèmes éducatifs dans son ensemble.
Tout à fait, tout à fait.
En tant que conseiller d'orientation, pouvez-nous énumérer quelques conséquences de la dite corruption?
L'impact de la corruption, d'abord, premièrement, vous devez savoir que la corruption entraîne la démotivation auprès des élèves. Les élèves que vous voyez, lorsque ils sont dans ce jeu de corruption avec l'enseignant, ils sont carrément démotivés par rapport à l'attrait qu'ils doivent avoir vis-à-vis de leur enfant ou éducation. Ils sont démotivés. C'est pourquoi vous allez voir certains enfants peuvent se dire « je me présente ou je ne me présente pas à l'école, il n'y a pas de souci, parce que je sais qu'au final, je vais soudoyer, je vais faire ceci et je vais réussir. » Donc, il y a d'abord la démotivation et puis il y a la perte de confiance. Hein. Donc, la perte de l'estime de soi même. Donc, quand l'enfant entre dans ce jeu de corruption, il perd une certaine estime de lui-même. Il ne peut pas plus être à même de faire lui seul sans passer par des moyens frauduleux. Donc, il y a cette perte de confiance, cette perte d'estime de soi. Il y a également la diminution de l'esprit compétitif. Vous savez que lorsque l'enfant entre dans les jeux de la corruption ensemble avec ses enseignants, en ce moment-là, il ne sait plus compétir avec ses collègues. Il se dit que même si je ne fais pas d'efforts, je vais réussir. Donc, l'enfant n'a plus cet esprit d'émulation, de compétition entre lui et ses collègues. Donc, il y a également la dépendance. Vous savez que quand quelqu'un entre dans ce jeu-là, il ne sait plus à quel moment s'arrêter. La corruption, c'est comme de la drogue. Donc, ça rend les gens accros. Quand quelqu'un est dans ce monde-là, c'est difficile qu'il ne sache s'arrêter. Et vous savez que les conséquences ne vont pas se limiter seulement à l'école. Parce que ces enfants qui sont aujourd'hui à l'école, demain, ce sont des responsables de tel ou tel autre secteur de la vie professionnelle. Et ces gens-là vont continuer avec cette corruption, cet esprit de corruption. Et voyez comment la corruption détruit même le tissu économique de toute une nation et ça déstructure même toute nation. Donc, vous devez savoir que la corruption a beaucoup d'impact, mais alors négatif sur les élèves et éventuellement sur les enseignants qui s'adonnent.
En tant que autorité scolaire, quelles sont les sanctions que vous infligez aux enseignants et élèves que vous surprenez en pleine corruption?
Ben, vous savez que la corruption d'abord est vraiment interdite dans le règlement intérieur de chaque école. Mais vous savez, je dois vous avouer que le mal est tellement profond que je vous citais tantôt, parmi les facteurs qui favorisent cette corruption, je vous citais tantôt l'impunité. Très souvent, ça le problème, il n'y a pas souvent des actions punitives contre ces gens qui s'adonnent à ces pratiques. Évidemment, ça pourrait arriver, on peut passer à l'exclusion définitive de l'enfant de l'école ou d'un enseignant de l'école, mais ce sont des cas qui arrivent très rarement. Tenez, je vais vous donner un exemple pour vous montrer à quel point la corruption a pris de l'ampleur dans notre pays et que cette corruption est tellement bien organisée et tout le monde voit, mais peu de gens ou sinon personne menaient des actions pour arrêter ce fléau-là. Aujourd'hui, vous allez on vous dira qu'il y a eu bientôt les épreuves des examens d'État, la dissertation qui s'est passée, mais là, hors question, il y a également eu les épreuves pratiques. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas vu dans les chefs et des surveillants, des chefs de centre et des inspecteurs qui ont été promis à cette mission-là? Ce sont eux-mêmes les inspecteurs qui demandaient de l'argent aux enfants avant de faire passer des épreuves. Alors que tous ces enfants ont payé des frais de passe aux examens. De la même façon, les corrupteurs dans le système éducatif, les corrompus dans le système éducatif devaient être radiés. Et je crois que la radiation reste la meilleure option qui peut faire peur, non seulement aux corrupteurs, mais aussi aux corrompus.
Messieurs les conseillers d'orientation, nous vous remercions.
C'est moi qui vous remercie, messieurs les journalistes, et encore une fois, salutations à tous les auditeurs de la radio.
La corruption et la fraude scolaire sont des phénomènes malheureusement courants dans plusieurs écoles en République démocratique du Congo, où les parents et les élèves versent des pots de vin aux enseignants pour obtenir des résultats qu'ils ne méritent pas. Serge Bondedi Elie, coordonnateur de la campagne École Ezambongote, secrétaire général et représentant juridique de l'ONG IMAE, s'entretient à ce sujet avec Sarah Soumbila.
Bonjour, monsieur Serge.
Bonjour, madame Sarah.
Avez-vous conscience que la corruption existe bel et bien dans les écoles du Congo?
Je crois que les dernières élections font partie des indicateurs qui font montrer à quel niveau la société congolaise est gangrénée par la corruption. Vous avez vu les élections sénatoriales et des gouverneurs des provinces à chaque cycle électoral. La situation ne fait que galoper. Nous sommes effectivement très conscients de l'existence de la corruption à l'école, à l'université. Et aujourd'hui, c'est dont nous décrions au niveau presque dans tous les secteurs. C'est parce qu'à un certain moment, quand la corruption gangrenée prenait de la place et de l'espace ainsi que du volume dans les écoles, les gens pensaient que ça pouvait que se limiter dans le milieu éducatif, mais ils n'avaient pas peut-être l'ampleur, les dangers que cela représentait. Tous ces enfants qui ont passé de classe d'une à une autre au moyen de la corruption, tous ces enfants qui ont obtenu des bulletins et des diplômes à l'aide de la corruption, ce sont eux qui sont aujourd'hui dans certains postes de responsabilité ou de commandement dans les entreprises publiques comme privées ou tout comme dans les institutions. Et ils ont vécu la corruption. L'enfant qui était en 1990, aujourd'hui il a 34 ans, ce n'est plus un enfant. C'est un adulte qui a vu le jour dans le contexte de la corruption. Il a grandi dans ce même contexte et il ne peut rien faire d'autre parce qu'il n'a pas de référentiel. Donc aujourd'hui, comme disent certaines personnes, la corruption est devenue une sorte de sport national, une discipline nationale. Donc c'est fort, malheureusement. C'est une réalité qui se vit dans le milieu scolaire en République démocratique du Congo, et c'est extrêmement grave, c'est extrêmement dangereux. C'est-à-dire que puisque l'école forme, l'école instruit, et pour que cette dernière s'assure du niveau d'instruction reçu, l'école organise des évaluations qui sont soit certificatives ou sommatives. Avec les évaluations sommatives, c'est-à-dire les interrogations, les exercices. Il faut que le candidat fasse montre d'applicabilité. Et au moment où le candidat ne sait pas le prouver, donc ceux-là qui se donnent à la corruption font effectivement recours au billet des banques pour pouvoir influencer l'appréciation du formateur de manière à lui mettre de points qu'il ne mérite pas.
Que peuvent être les causes de la corruption dans les écoles?
Bon, les causes de la corruption à l'école, il y en a nombreuses. La plus prépondérante est celle de la précarité dans laquelle vivent le personnel enseignant. Vous savez déjà aujourd'hui, à Kinshasa, la vie coûte excessivement cher. Excessivement. Les gens font face aux problèmes des loyers permanents, aux problèmes des transports. Je parlais du loyer, donc du logement. Problème de santé, des soins de santé, au problème de communication, au problème vestimentaire. Tous ces problèmes requièrent de moyens et de moyens frais et de moyens financiers. Alors, dès lors que le traitement salarial est insignifiant, ça expose. Parce que vous avez certainement un salaire, mais qui ne peut pas lier les deux bouts de mois. Déjà, les gens vivent dans des dettes infernales. Alors, ces formateurs qui se trouvent dans une situation de précarité qui ne dit pas son nom, il est exposé effectivement à la corruption. Donc, voilà pourquoi nous disons que c'est l'une des causes le plus pondérante. Donc la précarité, la situation sociale et économique, parce que si cette situation s'améliore, ça renforce la sécurité sociale. Donc dès lors que les formateurs restent dans l'insécurité sociale permanente, ils sont exposés et peuvent tomber facilement dans des sollicitations de la corruption. Ça, c'est l'une des causes. La deuxième, c'est aussi la question de l'éthique. La question de l'éthique, parce que on peut certes faire face à ce que je venais de décrire ici, mais si on fait quand même preuve d'une certaine éthique, on va se soustraire ou on éviterait plus ou moins de tomber dans ce genre de travers.
Pensez-vous que la corruption dans les écoles met à mal l'éducation des enfants?
La corruption dans les écoles met en mal sérieusement l'éducation de nos enfants. Parce que à l'école, l'enfant est appelé à apprendre le savoir, à développer les compétences pour être utile à la société. Et il y a des méthodes qui sont employées, il y a des didactiques auxquelles on fait recours, il y a des approches auxquelles on s'use pour atteindre ses finalités pédagogiques. Mais la corruption, c'est donc un raccourci pour éviter les approches, éviter les didactiques, éviter la méthodologie et se retrouver directement avec des résultats. Donc, les enfants à ce moment-là pensent que tout peut s'obtenir ou peut être obtenu qu'à l'aide de l'argent, qu'à l'aide de la corruption. Et on a en conséquence les enfants qui grandissent sans éthique, sans état d'âme, sans moralité. C'est-à-dire l'enfant n'a pas de limite, n'a pas de retenue. Et par conséquent, c'est cet enfant qui va rentrer à la maison, qui va importer ses comportements, et demain il est adulte, c'est la même chose. C'est ainsi que vous avez un roulage, un agent de régulation routière ou de régulation de circulation routière, qui ne sait pas prodiguer des conseils, qui ne vit que des lolombo, comme disent les Quinois. Made Swabana, parce que au fait, il croit qu'il faut vivre de ses fonctions au lieu de vivre de son travail.
Certains affirment que dans les écoles, le système des cours de rattrapage avec les professeurs titulaires des cours est devenu une forme de corruption bien masquée. Êtes-vous de cet avis?
Oui, je crois que c'est ce qu'ils disent, n'ont pas tort. Le cours de rattrapage par moment font partie de la forme de corruption parce que bon au fait parce que on ne peut pas comprendre que qu'une école qui a fonctionné normalement ils ont respecté la charge horaire une école qui était visitée par les inspecteurs une école qui n'a pas passé tout son temps à chasser les élèves pour défaut de paiement que cette école puisse organiser le cours de rattrapage. Dans le cas de la campagne École des Amants Montés, c'est que nous avons quand même mis à documenter et que vous avez certains de ces enseignants qui font ce qu'on appelle la rétention des matières pour justifier le bien fondé des cours de rattrapage. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième, il est rare de voir les élèves qui participent à un cours de rattrapage d'un enseignant d'échouer avec son cours. Parce que généralement, il y a une sorte de favoritisme, ça c'est de un. Et de deux, la communication sur certains contenus, notamment des évaluations sommatives. Voilà pourquoi ce n'est pas vraiment conseillé. Cette histoire des cours de rattrapage, c'est parce que l'école n'a pas fonctionné correctement. On peut comprendre s'il y a un cas de catastrophe naturelle, il y a un besoin qui explique vraiment qui est les cours de rattrapage. Donc ceux qui les disent n'ont pas totalement tort. Ça fait partie des réalités qui s'observent donc sur terrain.
Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ces programmes. Le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
C'est par ici que s'achève cette émission sur Radio Okapi. La corruption dans les écoles met à mal l'éducation des enfants. C'est le sujet qui était au menu de cette émission que vous pouvez réécouter sur le site de Radio Okapi, www.radiookapi.net et sur la page Facebook Bana Okapi. Grâce à Mvuezolo, Sarah Sumbila, Greta Lulendo et André Kitenge ont coproduit ce magazine. Sous la supervision de Jean-Marc Matoakimofelele Dijano, mise en onde de Mimi Kindou. Je suis Stanislas Diomi à la réalisation et présentation de cette émission. Bonne suite de programmes sur Radio Okapi et je vous laisse suivre l'antenne soir animée par Jeff Opila.